des jeunes, Radio Campus, parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.
L'association Famille Rurale a mis en place un projet intitulé Paroles de jeunes pour permettre à des adolescents d'être éduqués à la citoyenneté et de comprendre le sens de ce mot et les valeurs qu'il porte. C'est ainsi que Radio Campus a permis à des élèves de 4 maisons familiales et rurales et à des jeunes d'une FRMJC d'accéder à l'expression radiophonique, d'apprendre à débattre et à s'exprimer en respectant les règles de la liberté d'expression et en utilisant une démarche journalistique. Engagement, solidarité, laïcité, vivre ensemble. Ces termes ont été abordés puis développés au gré d'interviews, de tables rondes, entre jeunes ou avec des représentants locaux d'associations, des élus locaux. Formuler une opinion, argumenter, respecter la vie d'autrui sont des savoir-être et des savoir-faire nécessaires à la construction d'une identité citoyenne. C'est pour cela que le projet a commencé en décembre 2017 par une initiation à la citoyenneté. Vous entendrez aujourd'hui ces paroles de jeunes enregistrées dans les maisons familiales et rurales de Chingy, Férolles, Sainte-Geneviève-des-Bois et Accou, ainsi qu'à la FRMJC de Neuville-aux-Bois. Ce projet a été initié par Famille Rurale et a été mis en place en partenariat avec les maisons familiales et rurales, Radio Campus, la Ligue de l'enseignement, la FRMJC et avec le soutien financier du Conseil départemental du Loiret, de la région Centre-Val-de-Loire et de la Direction départementale de la cohésion sociale.
Alors pour vous, la meilleure définition que vous avez trouvée pour la France, c'était laquelle ?
Une nation fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
Alors pourquoi vous avez choisi cette définition ?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Ça va.
Ça va bien.
Vous venez d'où ? Alors, je vais vous présenter, moi. Dans le studio, il y a Flavie, il y a Rudy, il y a Enzo et Chloé. Bonjour à toi, Chloé.
Bonjour. Alors, nous venons de la maison familiale et rurale du Pithiviers, qui se situe à Accou, au sud de Pithiviers. Alors, on fait des formations. Donc, il y a des formations 3e et des formations CAPA, service à la personne et vente en espace rural. Ces formations se font par l'alternance, c'est-à-dire... Souvent, c'est une semaine d'école et 2 semaines de stage.
D'accord. Toi-même, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette formation ? Les lieux de stage, par exemple, dans lesquels tu as été ?
Alors, le premier trimestre, je suis allée en stage dans une maison de retraite. Le deuxième, j'y suis allée dans une école maternelle. Et le troisième trimestre, je suis allée dans une épicerie.
D'accord. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport entre une maison de retraite et une école maternelle, sauf que toi, justement, tu t'orientes vers les métiers des services à la personne, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et concernant l'épicerie, c'est quoi le rapport ?
C'est dans la vente.
D'accord.
Donc, du coup...
Quel métier tu ambitionnes de faire plus tard ?
Plus dans l'aide à la personne. Je ne sais pas dans quelle branche, mais dans l'aide à la personne.
D'accord. Est-ce que tu sais si vers les plus jeunes, les moins jeunes ?
J'aime bien les deux.
T'aimes bien les deux, d'accord. Très bien, merci pour cette présentation, Chloé. Merci aussi à tous d'avoir fait le voyage. Je rappelle donc il y a 16 jeunes avec Chloé dans le studio, enfin 15, 16 en comprenant Chloé, qui viennent tous donc de la MFR Maison Familiale et Rurale d'Accou. On va poursuivre avec Enzo qui va nous expliquer le pourquoi de votre présence, parce qu'en fait, vous êtes ici dans le cadre d'un projet qui a été mis en place par Famille Rurale, dont les MFR sont partenaires, Radio Campus également, la FRMJC, je ne vais pas citer tous les partenaires, on le fera pour l'émission du 19, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en quelques mots, Enzo, ce projet citoyenneté, comment il a débuté ?
À la base, on avait parlé de la citoyenneté, on a dit ce que c'était et on en a débattu avec les gens de la classe et les professeurs. Et ensuite, après, on a fait aussi des jeux avec des dés, où on devait dire quel mot allait avec quelle phrase, et etc. Il y a aussi la maire d'Accou qui est venue débattre avec nous ce que c'était la citoyenneté et au niveau de nos droits à nous en tant qu'adolescents. Et il y a aussi Jacqueline Simonet qui est la vice-présidente de la MFR qui est aussi venue pour en parler.
Allez, honnêtement, à titre personnel, qu'est-ce que tu en as pensé de ce projet ?
Bah, c'était plutôt bien. C'était enrichissant. Et ça a permis de découvrir beaucoup de choses.
Mmh. Enrichissant, c'est-à-dire ?
Bah, on a permis de savoir un peu plus nos droits, ce que c'était la citoyenneté, si on avait quelque chose qu'on ne savait pas dessus ou des choses du genre.
Mmh. Toi-même, tu es impliqué, je ne sais pas, de manière citoyenne dans une association
Oui, je suis dans l'association La Belle Rolande, l'association de la maison de retraite de Beaune-la-Rolande. Et donc, des fois, j'y vais souvent... venir faire les animations ou même venir la journée ou que l'après-midi, ça dépend. Et je viens pour aider en tant que bénévole.
Alors, tu n'es pas obligé de me répondre, mais je te le demande indiscrètement. Pourquoi tu as choisi de t'impliquer de manière bénévole ?
Parce que ça me faisait plaisir de venir aider et parce que j'aimais bien le lieu, j'aimais bien le personnel, j'aimais bien les résidents, j'aimais bien là où j'étais.
D'accord, très bien. Merci, ça permet je pense à nos auditeurs auditrices de mieux comprendre ce que peut être l'engagement citoyen des jeunes. On va poursuivre avec Rudy, qui va nous parler du programme de la journée. Donc vous êtes venu d'un coup dans le Petit Vray. Explique-nous un peu Rudy ce que vous êtes venu faire aujourd'hui.
Alors aujourd'hui on est venu pour visiter la Radio Campus. Qu'est-ce que c'est, comment c'est fait le fonctionnement de la Radio Campus. Et du coup, pour la même occasion, on a été visiter Le Bouillon. C'est juste à côté, c'est un centre culturel. Et on ira peut-être visiter aussi les autres filières de la fac qu'il y a sur le campus. Et puis ce midi, on ira manger avec la MFR de Chigien, qui mangera au restaurant Université.
De Chingy.
Chingy, excusez-moi.
Oui, voilà, de Chingy, d'accord. Merci Rudy, vous avez l'occasion de faire des sorties avec la MFR. Est-ce que c'est la première sortie de l'année que vous faites ou au contraire, c'est habituel ?
Non, on a déjà fait une sortie à Super Rue de Neuville-aux-Bois avec la classe pour tout ce qui est renté, tout ce qui est vente.
D'accord. Et sinon, d'autres sorties que vous pouvez faire ? Alors autour de la table, vous pouvez témoigner, hein, Chloé, Flavie, Enzo.
On a visité la maison de retraite de Beaune-la-Rolande.
D'accord.
Et on est allé visiter la halte garderie de Bellegarde, de Neuville-aux-Bois aussi.
D'accord, très bien. Vous connaissiez le campus, vous quatre, ici, Orléans-la-Source, Enzo qui dit oui de la tête.
Oui.
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 Il y avait des services civiques de Beaune-la-Rolande qui étaient venus ici, apparemment.
D'accord, c'est
et,
possible.
Du coup, je connais de là.
D'accord, très bien. On va terminer ce tour de table donc avec quatre élèves de la classe de la votre classe. Ils sont avec moi dans le studio. Vous êtes en CAP, voilà. En CAP...
Kappa.
Kappa, en CAP Kappa. Sur une action que vous avez menée, Flavie.
Oui, on a nous, les élèves de la MFR, on a créé une association... Donc, on a organisé une première journée au mois d'avril. On a invité les élèves de CE2 d'Acou. Et on a organisé une chasse à l'œuf, donc qui s'est déroulée dans l'enceinte de la MFR. Donc, on a fait deux ateliers, donc deux petits groupes. Donc, un atelier chasse à l'œuf et un atelier création de masques. Donc, on avait déjà pré-coupé les masques, ils avaient juste à les décorer et après on les a accrochés. Après on a aussi fait des petits jeux, des balles aux prisonniers, du foot, des choses comme ça. Et après on les a invités à prendre le goûter avec nous. Donc on avait réalisé les cupcakes, les brochettes de bonbons la veille. Et puis voilà, on a goûté avec eux. Et après, ils sont repartis avec un petit sachet de chocolat.
Alors, pourquoi avoir mis en place cette action ?
Parce que nous-mêmes, on est dans une association. Donc, la MFR, la Maison Familiale Rurale, c'est une association. Et puis, on voulait créer la nôtre que nous, élèves.
Ah, une action à vous ?
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
D'accord, dans le cadre d'une association au sein de votre classe, une association temporaire, d'accord, avec un projet, voilà, un projet commun.
Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience ?
Bah, c'était bien. On a rencontré des personnes, donc des élèves qu'on ne connaissait pas, aussi des professeurs. Bah, on a partagé des moments sympas, comme les jeux, le goûter.
Vous ne vous connaissez pas, alors que vous êtes sur le même territoire, ils sont pas très loin de la MFR. Hein.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les étapes de la mise en place de ce projet ? Entre l'idée et la réalisation, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, déjà, on a eu l'idée quand on avait parlé ensemble des associations. Et en fait, il nous est venu plein d'idées. Et on a choisi celle-là parce que le mois d'avril arrivait et que c'était Pâques. Et du coup, bah, on a décidé de faire une chasse à l'œuf. Et puis après, c'est arrivé, quelqu'un a eu une idée des masques. Puis après, de faire des gâteaux pour le goûter, puis des brochettes et des petits paquets de bonbons. Et puis voilà, ça s'est réalisé au fur et à mesure.
Quelques mots, Chloé, Rudy, Enzo, sur cette journée ? Non.
Bah, c'était plutôt bien.
Ouais.
Oui, c'était sympa parce que comme ça, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde, aux enfants et puis aux élèves aussi.
C'était vraiment rigolo de s'occuper des élèves, en fait, des enfants qui étaient dans le même cas que nous avant. C'était vraiment bizarre.
Dans le même cas que vous, c'est-à-dire ?
Bah, avant, nous aussi, on était des élèves comme eux, quoi. C'est bizarre en peu de temps de pouvoir devenir... pendant une journée, des animateurs s'occuper des enfants.
D'accord, merci pour les enfants. Voilà, merci pour eux. Merci à vous, la journée n'est pas terminée. On va aller donc manger, comme tu le disais tout à l'heure, Rudy, au restaurant universitaire. Entre-temps, on aura eu le temps, je pense, de faire une petite visite du campus, d'accord ? Une visite sommaire du campus avec les différentes infrastructures que vous pourrez y trouver. Une dernière question avant de se quitter. Est-ce que la vie d'étudiant, ça fait partie de vos projets d'avenir ? Oui ? Non ?
Bah, on est étudiant là, donc on ne sait pas si dans 2 ans on ne le sera plus ou si après on continuera nos études. Certains savent, mais d'autres non.
Toi, Flavie, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ?
J'aimerais vivre de la photographie.
Enzo ?
J'aimerais devenir ATSEM auprès des enfants.
Chloé ?
Je ne sais pas. Enfin, au début, je voulais être comme Flavie, mais du coup. Je pense que je ne vais pas faire ça parce que je veux m'orienter vers autre chose.
Photographe ? D'accord. Rudy ?
Et moi, je ne sais pas, je serai dans la vente ou peut-être dans l'enfance, les deux me plaisent. C'est pour ça que j'ai choisi le CAPA qui nous
Très
propose
bien.
À l'AMFR.
Vous êtes jeune, vous avez encore en plus les grandes vacances pour y réfléchir. Merci beaucoup à vous.
Non.
À très bientôt sur Radio Campus. Je rappelle à nos auditeurs auditrices qu'après la date du 19 juin, prochaine émission, une émission spéciale d'ailleurs avec la Maison Familiale et Rurale de Férolles, nous aurons un invité spécial. Je vous le dévoilerai un petit peu plus tard. Mais vous pourrez donc retrouver sur le site et dans le cadre du Moulin à Parole toutes les émissions qui ont été enregistrées dans le cadre du projet Parole de Jeunes mis en place par l'association Famille Rurale. Les émissions enregistrées à Accouche, Ingy, Férolles et Sainte-Geneviève-des-Bois que nous recevions la semaine dernière. Merci les jeunes, au revoir.
Au revoir.
L'engagement associatif, est-ce qu'il y en a autour de cette table qui font partie d'une association, qui s'engagent dans une association ? Enzo.
Je fais partie de l'association La Belle Rolande, de la maison de retraite de Beaune-la-Rolande, et du côté de l'animation.
Et qu'est-ce que tu y fais ?
Je peux venir en tant que bénévole. En faisant partie de l'association, je peux venir en tant que bénévole. Par exemple, le week-end, je peux venir quand je veux. Je peux vraiment venir quand je veux, faire les animations ou juste aider le matin. Je suis bénévole, en fait.
Et comment tu vis ce bénévolat ?
Bien.
Qu'est-ce que ça t'apporte, par exemple ?
Ça me permet de me... faire mieux voir si j'ai faim.
Moi non plus, je sais pas.
Ça permet de voir de nouveaux choses, de nouvelles choses. Ça permet de.
De faire des rencontres.
De l'expérience, de faire des rencontres.
De faire des rencontres.
Oui.
Non, parce que là, par rapport au projet dont on parlait précédemment, c'est un projet qui va favoriser la rencontre, hein, forcément. Oui. Le bénévolat permet cela, permet d'aller vers l'autre. Qu'est-ce que ça peut permettre, selon vous aussi, l'engagement associatif à vos âges ?
Alors, bah, ça permet de prendre conscience des fois de la vie, un petit peu. Donc, parce que moi, je fais partie d'une association avec mes parents. Donc, en fait, ça s'appelle le Club Canin de Chambon-la-Forêt. Mais, on fait partie des chiens visiteurs. Donc, ça apporte une belle leçon de vie quand même. Parce que quand on voit les personnes, ce qu'on leur apporte, c'est beau.
Tu peux, en quelques mots, un chien visiteur, c'est quoi ?
Nos chiens, ils sont diplômés pour aller rencontrer des personnes, soit des personnes dans des maisons de retraite, soit dans des EHPAD, dans des personnes dans situation d'handicap, donc des enfants, des adultes. Et mes parents, la dernière fois j'étais avec eux, enfin, on est toujours ensemble. On a accompagné une dame en fin de vie avec notre chien. En fait, elle a attendu de voir notre chien et 2 heures après, elle est partie. Donc, ça apporte vraiment une belle leçon de vie, quoi. Donc, voilà.
Alors, vous êtes tous en situation d'apprentissage parce que vous êtes en CAPA SAPVER. Donc, vous allez des fois dans des entreprises, dans des collectivités pour acquérir de l'expérience et de la pratique professionnelle. En quoi l'engagement associatif, le bénévolat, et qui est un travail quand même, hein, parce qu'il faut faire les choses sérieusement, diffère-t-il du monde du travail ? C'est quoi la différence ? Outre le fait, évidemment, on le sait bien, que vous n'êtes pas payé. Quelles sont les différences ? Oui, Louane.
Déjà, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcé de faire, on ne nous l'a pas obligé. Enfin, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie, c'est pas quelque chose à quoi on est restreint de faire pour vivre.
Oui, il n'y a pas d'obligation. C'est pas ça qui va remplir le frigo.
Oui.
Voilà, vous faire vite d'accord.
Si on aime aider des gens, ça peut, on peut faire partie d'une association pour le faire.
C'est en dehors de notre travail, donc c'est un plus pour nous. Si on le fait, c'est déjà pour nous, mais aussi pour aider les autres.
Aider les autres, alors c'est quelque chose qui revient. Le témoignage de Chloé, là, avec son association de chiens visiteurs. Enzo aussi, du côté de l'EHPAD, avec l'association qui s'appelle...
La Belle Rolande.
La Belle Rolande. Et puis, le témoignage qu'on vient d'entendre encore de... je vais y arriver pour les prénoms que vous m'avez dit. Flavie, voilà, c'est ça, Flavie. Aider les autres, c'est quelque chose qui est revenu aussi. Ça permet d'aider les autres, faire association. Et... puisqu'on est en train de parler de la citoyenneté, est-ce que ça fait partie d'un parcours de citoyen, aider les autres ? Citoyenneté et aider les autres, est-ce que ça va ensemble ?
Oui, ça peut, oui.
Moi, je fais partie d'une association sportive où, vu que le sport du motocross est cher, on fait des journées tous les 3 mois où des enfants ou des adolescents jusqu'à 18 ans peuvent venir et pratiquer ce sport gratuitement.
Et tu y contribues de quelle manière, toi, à ton échelle ?
J'y vais pour pour les équipements, les donner quel enfant, à quel adolescent.
Moi, par exemple, il y a à la MFR, ils accueillent aussi le RAM. C'est des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants dont elles s'occupent pour faire des activités. Souvent, c'est de la cuisine. Donc, on est 3 ou 4 à avoir été conviés à s'occuper d'eux avec les assistantes maternelles pour réaliser des ateliers cuisine.
Et un retour d'expérience, comment tu as vécu ces moments-là ?
C'était bien, c'était agréable avec les enfants.
Je me demande, est-ce que vraiment vous pensez que nous sommes tous pareils ? Alors, est-ce que c'est un idéal que vous visez ou est-ce que c'est une réalité ? Rudy ?
Oui, on est tous pareils. C'est comme j'ai montré un exemple. C'est pas parce que le renard blanc s'entend pas avec... il s'entend très bien avec le renard roux. Et c'est pas pour autant que, comme nous, les noirs et les blancs, on s'entend très bien. vois pas pourquoi il y aurait deux races différentes en fait.
Alors, je me permets de te demander, est-ce que le renard roux et le renard blanc en période de disette ne se mangeront pas l'un et l'autre pour un lapin? Voilà.
Après, c'est leur
et
combat.
Et puis toi mais et moi, par exemple, alors donc toi, t'as un micro rouge, un micro noir. Bon, je peux mettre les lunettes, voilà, on n'a pas le même âge. J'ai un pull noir, t'as un pull gris. J'arrive pas vraiment à y croire qu'on est tous pareils. Là, tu m'as pas convaincu. Chloé.
Alors, si, on est tous pareils. On a tous deux bras, deux jambes, un nez, deux oreilles, une bouche, deux yeux, des cheveux. On est tous pareils. Donc, genre, on est tous fabriqués de la même façon. C'est ça. Après, oui, on n'est pas tous pareils, mais...
Alors, on est tous pareils ou on n'est pas... Tu commences en train de nous convaincre qu'on est tous pareils, tu dis, après, oui, on n'est pas tous pareils. Alors, est-ce qu'on est pareils ou pas? Alors, d'un point de vue, on est... Alors, attends, mais ce que tu es en train de dire, là, tu m'as décrit quoi?
Bah, on est tous des êtres humains.
Ah ben voilà, dans ce cas-là, on est tous des êtres humains, on est pareils parce qu'on est tous des êtres humains. Ok, donc ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, on est tous des humains ici autour de cette table?
Oui.
Bon.
Oui.
Chloé, t'as dit que par contre, on n'était pas tous pareils. Par contre, on n'est pas tous pareils.
Alors non, on n'est pas tous pareils parce que, on n'a pas tous, on s'habille pas tous pareils. On a chacun nos goûts, nos loisirs, nos pensées, nos... Enfin, on est tous différents. Enfin, en étant quand même... Enfin...
On est des humains différents.
Voilà, on est tous des humains, mais différents. On a tous... on est... Vraiment, il n'y a rien du tout qui correspond. On est vraiment tous différents, quoi.
On n'est pas tous différents et justement heureux. Si. On n'est pas.
Voilà.
On n'est pas. Oui. On est.
Alors.
On n'est pas tous pareils et justement heureusement parce que on n'est pas des clones non plus. C'est pas une usine. C'est pas une usine, on sort pas de l'usine tous deux bras, deux jambes, deux yeux, les mêmes façons de penser, les mêmes idées, les mêmes choses qu'on aime et tout. Et heureusement, parce que ça serait vite le bazar. Enfin, ça servira à rien, oui, aussi. Puis, enfin, on n'est pas des clones. Et...
D'autres mots pour conclure? Vous, est-ce que vous avez l'impression de... Oui, ce débat, ces temps d'échange de débat, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu... évoluer, grandir, changer d'avis.
Alors sur ce débat, je suis d'accord, on est tous différents, on a tous un caractère différent, même si on est tous humains. Et donc on a tous nos opinions, quelles qu'elles soient. Et il faut qu'on s'arrange avec ça pour vivre en société dans les meilleures conditions.
Mmh. D'autres mots en guise de conclusion? Oui, Chloé?
Oui, c'est un peu comme Yann, il a dit. Même si on est tous différents, il faut quand même qu'on arrive à tous vivre ensemble. Voilà. Et à être citoyens. Et à accepter les règles. Et il y a quand même la devise française qui est quand même vraie, liberté, égalité, fraternité. Et c'est quand même vrai. Enfin...
C'est la fin de cette émission avec Radio Campus 88.3 en direct depuis la maison familiale et rurale de Hakou depuis en cette journée du 8 mars avec Enzo, Louane, Samantha, Marc-Antoine, Océane, Rudy, Dylan, Yann, Soraya, Chloé, Camille, Flavie, Shirley, Manon, Angie, Louane et Chloé accompagnés par leur professeur Madame Passa. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Merci. Au revoir, bisous. Bye.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florian, je suis actuellement avec ma classe de 3e de la MFR de Chingy et nous allons vous présenter Monsieur Delrave, président de l'Union départementale des associations familiales du Loiret, l'UDAF. Bonjour Monsieur Delrave.
Bonjour.
Cette interview sera menée par Paul, Lily Rose, Laurane, Enzo, Nathan, Anthony, Elric, Adrien, Charles, Maxence, Brian, je laisse la parole à Paul.
Merci à tous, merci à Florian. Dans cette première partie de l'émission, nous allons partir à la découverte de l'UDAF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Présentez-nous l'UDAF.
Alors, l'UDAF est une association, loi 1901, créée par ordonnance en 1946. Elle représente toutes les familles du département du Loiret. Alors, créé par ordonnance, ça veut dire que ça a été créé par décision du président, des décideurs à l'époque. Nous étions juste à la fin de la guerre et nécessité que les familles, que les habitants par secteur puissent remonter leur situation et qu'il puisse y avoir des échanges.
En quoi consistent vos activités ?
Alors, nos activités consistent en 4 missions officielles qui nous sont confiées par les pouvoirs publics. La première, donc, comme je vous disais à l'instant, représenter toutes les familles du département. La deuxième mission, c'est donner avis aux pouvoirs publics et décideurs publics sur des situations spécifiques qui concernent les familles dans leur globalité. Troisième mission, gérer des services qui nous sont confiés par les pouvoirs publics, ce qui est l'activité importante, la plus importante au niveau de l'UDAF du Loiret. Et quatrième mission, rester en justice, c'est-à-dire aller en justice pour défendre l'intérêt de familles qui seraient en situation difficile.
Pouvez-vous développer ?
Oui, avec plaisir. Donc, si vous voulez, dans la mission de représenter les familles du département, ça veut dire qu'on mène des activités, soit officielles, soit à titre associatif, concernant des situations, l'intérêt des familles pour faciliter les choses pour que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est une mission importante qui est laissée à l'initiative du conseil d'administration qui prend des décisions, des orientations en assemblée générale. On y reviendra peut-être. Les grandes orientations sont décidées à ce moment-là. La deuxième mission, gérer des services qui nous sont confiés par les pouvoirs publics. Là, c'est pour intervenir sur des situations où des familles ou des particuliers sont en situation difficile. Essentiellement, des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir gérer leur patrimoine, qui ne peuvent pas se gérer eux-mêmes totalement, etc. Ils sont confiés à une association tutélaire. Et donc, là, on gère des tutelles. Et puis, d'autres activités, accompagnement d'adolescents en situation familiale difficile. Donc, on facilite les choses dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert que l'on fait à l'est du département. Et puis, d'autres missions spécifiques qui nous sont confiées. C'est variable d'un département à l'autre. Troisième mission, c'était de donner avis au pouvoir public sur des faits de société. Donc, à ce titre-là, on rencontre les décideurs, que ce soit les parlementaires, le préfet, pour donner avis, pour dire, voilà, les familles dans le Loiret sont en telle situation où un certain nombre de familles n'ont pas de logement, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le logement, etc. Des jeunes mineurs sont isolés, n'ont pas, etc. Comment on peut intervenir? Et puis, quatrième mission, rester en justice, c'est-à-dire aller au tribunal pour des faits de société ou des faits familiaux qui gênent les familles. Donc voilà simplement les 4 missions qu'assure l'UDAF.
Où intervenez-vous ?
Alors, géographiquement, on intervient, le siège social est à Orléans, donc où une grande partie de nos activités sont conduites à Orléans, mais nous avons aussi des services à Gien, Montargis et Pithiviers. Donc si vous voulez, on intervient sur l'ensemble du département, avec des spécificités. À l'est du département, on remplit pas les mêmes missions tout à fait que celles que l'on fait sur le canton de Main-sur-Loire, par exemple.
Depuis quand l'UDAF existe-t-elle ?
L'UDAF existe depuis 1945. Donc, créé par ordonnance, et il y a une UDAF dans chaque département.
En quoi vos activités sont-elles solidaires ?
Ah, elles sont solidaires parce que, si vous voulez, l'intérêt, c'est de défendre l'intérêt de toutes les familles, de toute la société. On ne défend pas les intérêts de quelques-uns, de quelques membres associés, etc. On représente l'ensemble du département. Donc, il y a une notion de solidarité très, très riche. Et quand je dis « nous représentons », c'est-à-dire l'ensemble des membres du conseil d'administration, nous sommes une trentaine de membres administrateurs qui représentent un certain nombre d'associations très différentes les unes des autres.
Vos missions sont-elles importantes pour la jeunesse et les familles ?
Oui, c'est important dans la mesure où on est proche des gens, où on a des moyens en tant qu'administrateur, hein, je vous dis qu'on était une trentaine, mais on a aussi du personnel, on a plus de 100 salariés qui s'investissent sur le territoire.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'accompagnement en adolescent en milieu ouvert. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que ça veut dire ?
Oui. Alors, oui, effectivement, je vous ai parlé peut-être d'adolescents, mais ce sont des mineurs. Hein, ce n'est pas forcément des adolescents, ça peut être des enfants en très, très bas âge. Ça consiste à une mission où un éducateur spécialisé, donc quelqu'un qui a la formation pour assurer cette mission-là, est en relation avec ce mineur, hein, cet enfant, qui est mineur, qui a moins de 18 ans, pour faciliter son quotidien, pour l'aider à résoudre les problèmes qu'il peut avoir dans sa famille ou avec ses frères et sœurs, etc. Donc c'est un accompagnement qu'on pourrait dire socio-éducatif. Enfin, c'est une mission de facilitateur de la vie familiale et de la vie tout court pour un mineur. Et cette mission est confiée par les pouvoirs publics sur décision de justice. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, UDAF, qu'on dit « Ah, ben, le petit untel, il aurait besoin d'être accompagné ». C'est la justice qui dit « Le petit untel, il est en situation délicate, il faut qu'il soit accompagné ».
Depuis combien de temps, monsieur Degrave, êtes-vous actif dans cette association ?
Très bonne question. Je ne sais pas si je vais oser vous répondre, parce que ça fait très longtemps que j'adhère, que je suis membre du conseil d'administration de l'UDAF, mais pendant très longtemps, j'étais seulement membre et peu actif, entre guillemets, et je suis président depuis début 2003.
Quelle activité vous tient le plus à cœur dans votre mission ?
Je ne sais pas si dans quelle vous le mettez au singulier ou au pluriel. L'activité principale, c'est de permettre de remplir notre mission de représentation de toutes les familles du département. C'est-à-dire quand il y a des faits de société spécifiques au Loiret qui nous sont connus, qu'on puisse s'impliquer pour faciliter la réponse. C'est l'objectif principal. À côté de ça, je vous disais tout à l'heure qu'on est une association avec des salariés, plus de 120 salariés. Une de mes missions principales, en accord et en partageant avec la direction de l'UDAF, c'est de gérer le mieux possible l'UDAF, parce que 120 salariés, c'est un budget, etc. Donc il y a des contraintes administratives très lourdes.
Pourquoi cette activité vous tient le plus à cœur ?
Cette activité me tient à cœur parce que j'ai toujours été travailler dans le milieu associatif, sur le plan professionnel d'une part. Historiquement, peut-être que mes parents aussi étaient investis dans ce milieu-là. Et puis, je crois qu'en termes de citoyenneté, etc., rendre service à la collectivité, ça me paraît important.
Mais quel est ce budget justement que vous accorde l'État ?
Si vous voulez, le budget que nous accorde l'État ou le département, c'est en fonction des missions qu'il nous confie. C'est-à-dire que, d'une part, et puis d'autre part, il y a un autre volet, je vous en parle après. Si vous voulez, on gère un certain nombre de services qui nous sont confiés. Donc quand on nous confie ça, on répond à une demande et on chiffre, voilà, pour faire telle activité, on aura besoin de mettre en place la mission de, mettons, 20 salariés, ça va nous coûter tant. Quel financement on aura en face, quoi ? Enfin, c'est d'une part. Donc ça, c'est la gestion financière, activité par activité. Et puis, par ailleurs, on reçoit une subvention de l'échelon national, qui est proportionnel au nombre d'adhérents, à l'importance du département, etc. Ce qu'on appelle le fonds spécial.
Qui vous confie ces missions ?
Les missions nous sont confiées pour un certain nombre de représentations au niveau national. Donc ça nous vient de l'Union nationale des associations familiales. Ça, c'est la représentation globale des familles. Ensuite, les missions spécifiques, je vous parlais tout à l'heure de ce qui est autour des jeunes, des enfants, adolescents, etc. Ça nous est confié par le conseil départemental du Loiret, par, Par exemple, pour la région Centre-Val-de-Loire, pour les 6 départements, on est le seul département à avoir cette mission-là. Les 5 autres départements n'ont pas cette mission-là. Ensuite, il y a les missions qui tournent autour de la gestion, de l'accompagnement des tutelles. Là, c'est l'État qui nous les confie.
Et avez-vous un lien avec les autres départements et les autres régions ?
Oui, on est regroupé au sein d'une union régionale des associations familiales où on mutualise un certain nombre d'idées, de réflexions, etc.
Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'échelon national ?
L'échelon national est l'union nationale des associations familiales. Donc, si vous voulez, c'est cette structure-là qui, d'une part, est créée par une élection des représentants des départements qui se réunissent à l'Assemblée générale nationale et puis qui élisent leurs représentants, et puis créer l'union nationale est créée par ordonnance, c'est-à-dire c'est l'échelon national qui a décidé qu'il y aurait en France une union nationale qui représente légalement toutes les familles.
Merci Monsieur Degrave d'avoir répondu à nos questions.
Non, c'est moi qui vous remercie de vos questions qui étaient très, très, très pertinentes et qui représentent des jeunes motivés. Bravo.
Parole des jeunes, Radio Campus, parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 avril en direct depuis la maison familiale et rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois avec 11 élèves de la classe de 3e enseignement agricole. En fait, elles sont 10, mais elles ont le plaisir d'accueillir une invitée qui fait partie de la maison familiale et rurale également et qui est en première. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons comme d'habitude parler citoyenneté et plus précisément d'engagement avec une invitée à qui je laisse le soin de la présenter, c'est-à-dire Fanny, c'est toi qui as en charge la présentation de notre invitée.
Nous accueillons Camille qui est en bac pro service aux personnes et au territoire en classe de première à l'AMFR de Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle s'appelle Camille Nivès, elle a 18 ans et elle vient de Montcresson. Et elle est sapeur-pompier au sein de la caserne de Montcresson.
Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'interview de Camille.
Que veux-tu faire plus tard ?
Je veux devenir auxiliaire de périculture en maternité.
Alors pourquoi avoir choisi d'être pompier volontaire ?
C'est de famille. Il y a mon père qui est pompier, il y a ma mère, il y a mon frère et il y a moi.
Qu'est-ce que cela t'apporte ?
Je suis fière de... d'aider les personnes en détresse quand ils ont besoin.
À quel âge as-tu commencé ?
J'ai fait 2 ans de jeune sapeur-pompier. Donc j'ai débuté en 2014. Et je suis rentrée à la caserne de Montcresson en fin 2016. Et j'ai eu mes formations début 2017.
Pourquoi tu as voulu devenir pompier comme tes parents ?
Parce qu'ils m'ont transmis la passion et de les voir partir en intervention. J'avais envie aussi, quoi.
Comment t'ont-ils transmis cette passion ? Je n'ai pas l'habitude de
pompier. Ça a commencé que pendant les manœuvres, je faisais les victimes, tout ça. Et après, ils ont commencé à me faire pratiquer. Et après, ils m'ont lancé dans les formations, tout ça.
C'est quoi une manœuvre ?
On s'entraîne, en fait. On fait des cas concrets, des accidents, tout ça.
Comme par exemple ?
Des hémorragies. Donc, on a des palettes exprès pour faire les maquillages. Des accidents.
Comment on fait la victime ?
Par exemple, je stimulais un malaise ou on prenait des voitures, je faisais essayer d'avoir un accident de voiture.
Vous faites ça dans des pour faire les simulations, vous faites ça dans des lieux sécurisés ou vous avez des lieux spéciaux, des lieux spéciaux ?
On fait ça partout. On peut faire ça sur un stade, sur un parking, à la caserne.
Sais-tu pourquoi ton père a voulu être pompier aussi ?
Ça fait 20 ans qu'il est pompier, donc...
C'est un pompier professionnel ou pas ?
Non, c'est que volontaire. Mon frère est pompier de Paris.
Quand est-ce que tu es disponible pour ton engagement chez les pompiers ?
Le soir, quand je rentre de l'école, les week-ends et la nuit.
Quand on t'appelle la nuit, c'est souvent pourquoi ? Est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes qu'il y a ou pas ?
Souvent, c'est les personnes qui tombent, les personnes âgées qui tombent la nuit.
Est-ce que dans le futur, tu envisagerais d'être pompier professionnel ?
Je voulais être dans les pompiers de Marseille, mais en fait, non.
Pourquoi ?
Parce que il faut beaucoup d'études et je veux faire mon métier avec les enfants.
Quels sont les avantages et les inconvénients de cet engagement ?
Les avantages, c'est qu'on rend service aux personnes. Et après, les inconvénients, c'est qu'on doit être, on sort pas comme on veut, quoi. Quand on est disponible, il faut rester chez soi. Et puis, il faut être disponible la nuit aussi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chez les pompiers ?
Il y a de plus en plus d'engagement de femmes, chaque année.
Et pourquoi ?
Bah, parce qu'ils veulent rendre service aux personnes et ils ont besoin de pompiers.
Y a-t-il assez de pompiers ?
Non. Ils en demandent encore beaucoup.
Il y a combien de pompiers environ dans une caserne ?
Nous, on a un petit centre, donc on est 13. Et après, ça peut monter jusqu'à 50 dans les gros centres de secours.
Et il y a beaucoup de jeunes ou pas ?
De plus en plus. Ceux qui sortent des jeunes sapeurs-pompiers. Et après, ceux qui arrivent directement dans la caserne.
Est-ce que dans la caserne, il peut y avoir les volontaires, les militaires et les professionnels ?
Alors nous, dans notre caserne, on a deux militaires, donc deux pompiers de Paris. Après, on n'a pas de professionnels, ce sera sur Montargis. Et après, le reste que des volontaires.
Merci à Camille pour toutes ces réponses. Nous poursuivons une interview... Merci à Camille pour toutes ces réponses. Nous poursuivons cette table ronde avec une nouvelle interview, celle de Fanny qui va se faire interviewer par Chloé. Fanny qui souhaiterait devenir pompier. Chloé, c'est à toi.
Bonjour, Fanny. Pourquoi tu veux devenir pompier l'année prochaine ?
Je veux devenir pompier parce que ce qui me motive le plus, c'est être utile et surtout sauver les gens. Enfin, être utile aux gens.
Où as-tu passé ta formation ?
J'ai passé mon PSC1 le 30 mars au sein de... Enfin, en lien avec la caserne des pompiers 12h sur 13.
Combien de temps ?
La formation, elle a duré 9 heures.
Est-ce que tu vas en faire ton métier ?
Je vais faire les pompiers et en plus, je voudrais devenir auxiliaire de puéricultrice à côté.
Qu'est-ce que tu as appris quand tu as passé ton PSC ?
Alors, au PSC1, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris les blessures, les brûlures, une personne qui était en perte de connaissance, les arrêts cardio-respiratoires, le massage cardiaque. J'ai appris plusieurs choses.
Est-ce que tu as eu du mal ?
Du mal, je sais pas, mais quand j'écoutais, je me mettais direct dedans, j'étais concentrée, quoi. Donc pour moi, c'était pas compliqué.
Il y a un membre de ta famille qui est pompier ?
Ma sœur.
Où ça ?
À Ozeur-sur-Trézé.
Tu vas intégrer quelle caserne des pompiers ?
La caserne de Châtillon-Coligny.
Est-ce que ça intéresse quelqu'un autour de cette table, à force de la discussion, de pourquoi pas s'engager dans les sapeurs-pompiers ? Ou alors de passer le PSC1 ?
Je sais pas si j'aimerais devenir sapeur-pompier ou passer le PSC1, mais j'ai longtemps voulu le faire avec un ami parce que être utile aux gens, j'aime beaucoup, mais je sais pas si je le passerai un jour.
Donc non, j'ai pas envie de passer le PSC1 parce que c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai déjà fait plusieurs interventions à l'école, en primaire, et c'est tout. Donc j'ai pas envie d'aller plus loin.
Moi ça m'intéresserait beaucoup, parce que venir en aide et tout, moi c'est ce que j'aimerais faire. Puis voilà.
Tu voudrais être sapeur-pompier ?
Ça après je sais pas, mais peut-être, je sais pas.
Moi je sais pas si je pourrais être pompier. Après, je dis pas non, je dis pas oui, parce que j'aime bien aider les personnes.
Ils peuvent être fiers d'eux, parce qu'ils aident les gens dans la vie de tous les jours.
Comment on peut devenir sapeur-pompier ?
Faut passer une formation initiale. Donc, moi, vu que je suis étudiante, j'ai fait une semaine complète de secours à personne. Après, j'ai fait 10 samedis d'incendie. Et une semaine complète d'incendie.
Et donc, tu signes un papier ou... comment ça se passe au tout début ?
En fait, quand t'arrives dans une caserne, ils te font signer des papiers d'engagement. Et donc après, ils t'envoient en formation. Et après, ta formation, t'es payé par ta formation. Et après, bah, moi, je suis partie une fois en apprenante. Après, ça dépend.
Donc, je suis intéressée et bah, je me demande comment faire du coup maintenant.
Bah, tu vas dans la caserne la plus proche de chez toi.
Et est-ce que c'est obligé que ce soit la plus proche ?
Oui.
D'accord.
Parce que t'es encore mineur.
Et qu'est-ce que je dois faire du coup quand j'arrive à la caserne ?
Bah, faut que tu voyes le chef de centre, après que tu lui en parles. Et après, lui, il va te guider, il va voir si t'es vraiment motivé, tout ça. Puis après, si t'es vraiment motivé, ils vont te faire passer des tests qui pourront après t'emmener dans les formations.
Et c'est quoi comme genre de test ?
Moi, mes tests, c'était... Il y avait un exercice de maths. Après, il fallait courir 1000 mètres. Il fallait tirer un dévidoir où il y a le tuyau dessus. Après, il fallait monter une échelle qui arrive à peu près au deuxième étage. Mais c'est pas éliminatoire.
Merci beaucoup pour tous vos témoignages et ces échanges autour de l'engagement de sapeurs-pompiers et celui du et le rôle que peut jouer le passage du PSC1 dans la vie des unes et des autres. Le PSC1 qui donc permet de porter secours à des personnes. Qui permet d'être utile, comme le disait Fanny tout à l'heure aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle veut devenir pompier plus tard. Autour de cette table, on va faire un petit tour de table où chacun va dire de quelle manière il souhaiterait être utile aux autres. Parce qu'on peut être utile en étant pompier, en passant le PSC1, mais il y a plein d'autres manières aussi pour être utile et s'engager.
Bah, par exemple, moi, je vais être coiffeuse. Donc ça aide bah, aux personnes tout simplement à se sentir mieux bah, oui, dans sa peau et du coup à se faire des nouvelles choses qui pourront plus leur plaire que leur coiffure normale, à leur faire des nouvelles coiffures, enfin plein de choses comme ça quoi.
À se sentir mieux, avoir une estime de soi.
C'est ça.
C'est vrai, c'est important effectivement. Alors ça pourrait paraître anodin, on ne penserait pas qu'une coiffeuse a contribué à ça, mais c'est vrai que c'est effectivement...
Bah, si, parce qu'en plus avec tous les soins qu'on apporte du coup, bah, à leurs cheveux qui n'ont pas forcément chez soi, bah, du coup ça offre, on va dire, une nouvelle chance aux cheveux, on va dire ça comme ça, pour qu'ils soient plus nourris que la normale.
Et c'est pour, j'imagine, certaines personnes, enfin peut-être que je me trompe, mais des personnes âgées qui ont moins de relations sociales, l'occasion aussi d'avoir une
comme
heure...
Ça, comme ça, ça leur fait sortir de chez eux, même si c'est à domicile, ils ont toujours le contact avec des personnes, quoi. Puis on va dire que ça les aide aussi à être un peu plus beaux des fois.
Alors il y a un proverbe qui dit « seul un coiffeur le sait ». Parce qu'il paraît que les gens font beaucoup de confidences aux coiffeurs et aux coiffeuses. C'est vrai ?
C'est vrai.
D'accord, ok. Donc un coiffeur, en fait, en plus d'être...
C'est un peu un confident.
C'est intéressant, enfin, c'est pas anodin non plus. Il faut être capable d'avoir une écoute.
Voilà, il faut avoir la conversation et être capable d'écouter les gens.
Allez, d'autres témoignages autour de cette table ? Emma.
Moi, je me sens utile pour deux choses. Donc, la première, c'est que je veux être éducateur spécialisé, donc travailler auprès des handicapés, entre parenthèses. Donc, être là pour leur répondre à leurs besoins dans leur handicap, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et autre chose, être utile parce que je suis prof de roller, donc être utile pour les petits, pour leur apprendre à faire du roller.
Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être éducatrice spécialisée ?
Bah, on peut être dans plusieurs domaines, donc on peut être en classe, donc être avec une classe que d'handicapés, donc une classe Ulysse ou une classe dans des niveaux hospitaliers. On peut être en hôpital, on peut être avec des personnes âgées, des personnes, dans tout type de personnes handicapées en fait.
Qu'est-ce qu'une classe Ulysse ?
Une classe Ulysse, c'est une classe où des enfants ils ont des difficultés, mais ils n'ont pas un grand handicap. Ils ont des... Enfin, ils n'arrivent pas à comprendre comme les autres, mais on ne prend pas ça comme un handicap. Ils ont besoin de plus d'aide et plus d'écoute que les autres, mais ce n'est pas un gros handicap.
Donc plus tard, je souhaiterais devenir auxiliaire de puériculture pour être utile aux mamans, pour leur premier, deuxième ou troisième enfant, pour leur apprendre, par exemple, aux premières mamans, le premier change, la première tétée, le premier bain, etc.
Bah moi j'ai qu'une seule passion dans la vie, c'est la coiffure. Depuis l'âge de 3 ans, c'est que la coiffure que je veux faire. Ça m'a toujours attirée, c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Bah je pense que je peux être utile parce que dans ce monde-là, il y a toujours de la nouveauté, donc on peut apporter beaucoup de nouveautés aux gens. On peut beaucoup apporter beaucoup de nouveautés.
Bah moi plus tard, j'aimerais bien être coiffeuse. Et peut-être qu'aussi à côté de ça, je voudrais être pompier. Parce que en étant coiffeuse, bah on aide les personnes. Elles demandent, je pense qu'elles veulent changer, donc pour qu'elles soient bien. Et je voudrais être aussi pompier, parce que déjà il y en a qui auront besoin d'aide. Et donc voilà.
Moi plus tard, je veux travailler avec les enfants pour pouvoir les aider à apprendre, travailler à la maternelle avec des enfants, être AXEM pour apprendre plusieurs choses aux enfants, les aider s'ils ont besoin et puis aider les maîtresses aussi.
Moi plus tard, j'aimerais être médecin en pédiatrique en neurologie. Ça aiderait les enfants, les gens jusqu'à 18 ans. Les aider physiquement.
Eh bien, merci à toutes pour vos témoignages. Bon courage dans vos études. Merci. Cette table ronde n'est pas terminée pour autant. On va terminer avec, une sorte de tour de table où chacun va évoquer les grandes causes qui lui semblent utiles dans la société. Alors, ça ne veut pas dire que vous y êtes, mais il y a plusieurs associations, là on en a parlé, il y a plusieurs types de structures dans lesquelles on peut s'engager, donc ça peut être chez les pompiers comme Camille, ça peut être dans un club de roller comme Emma, ça peut être aussi dans sa profession en étant coiffeuse, ATSEM, auxiliaire de puériculture. Il y a plusieurs terrains d'engagement, ça peut être aussi en tant que médecin comme vient juste de le dire Chloé. Le choix est un peu difficile. Quelles sont selon vous les choses que vous voudriez changer dans la société? Et puis quelles sont les valeurs nécessaires? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment à manger, et c'est pour ça que Coluche avait inventé les restos du cœur. Et donc il y a des personnes qui sont bénévoles et qui se servent de la solidarité. De la solidarité des personnes pour remédier à la faim de d'autres personnes, d'accord ? Donc c'est un peu sous cet exemple-là qu'on va faire le tour de table. Il y a un problème, il y a des personnes qui ont faim, la solution c'est la solidarité, et donc voilà les deux valeurs que je mets en avant, la valeur que je mets en avant pour remédier à un problème. Donc on va faire un tour de table où chacun va dire moi je trouve que dans la société ou dans le monde il y a tel problème et j'aimerais bien que l'on fasse ceci ou cela pour y remédier. Allez, tout le monde fait partie du tour de table, oui.
Ben pour les SDF, plus de logements à disposition.
Et comment faire ?
Ben avoir qu'ils aient plus d'aide au niveau des finances, de la nourriture à disposition.
Est-ce que vous, à la MFR, vous organisez des fêtes ou des manifestations Ou est-ce que vous y participez ? Il y a des petites soirées le soir, j'entends. Des veillées, ça se passe comment une veillée ?
Bah en fait, la veillée, donc, c'est de 20h à 21h. Et après, on peut proposer du coup ce qu'on peut faire, comme par exemple danser ou chanter, ou plein de choses, quoi. Et donc voilà, après, on peut décider si on peut être ensemble ou pas, ou être que notre classe, ou voilà, ça dépend.
Donc, je pense aussi pour les terrains d'engagement. Donc, je pensais aux enfants qui n'ont pas tous, du coup, la chance pour l'école, d'aller à l'école. Donc, ça, il faut entrer encore y remédier pour qu'il y ait encore plus de personnes qui s'engagent à construire des écoles pour les enfants qui ne peuvent pas y aller, pour qu'ils puissent y aller normalement comme tout le monde, quoi.
Alors, on s'interroge depuis le début de ce projet Parole de Jeunes, organisé par Famille Rurale, sur la place de la citoyenneté dans la société, notamment auprès des jeunes. J'ai l'impression qu'un citoyen, ça doit être ouvert sur le monde quand même, savoir ce qui se passe. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est nécessaire de savoir ce qui se passe dans le monde? si on veut être un bon citoyen?
Bah oui, parce que si on s'intéresse pas à ce qui se passe autour de nous, bah en fait, c'est comme si on fermait les yeux sur tout, on n'admet pas la vérité.
Mmh.
Alors qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses horribles dans le monde, donc il faut le savoir, en fait.
Mmh. Donc c'est s'informer. Après, on s'informe, ben on est au courant. Il faut faire preuve de certaines qualités humaines. J'ai l'impression, là par exemple, on a parlé de lutte contre la pauvreté, contre les enfants qui ont pas d'éducation ou qui peuvent être pauvres également. Quelles qualités humaines sont nécessaires pour être citoyen, citoyenne, Nawel?
Ben on peut créer, enfin on peut déjà créer par une association. Et au fur et à mesure, si des gens sont d'accord avec nous, l'association elle devient de plus en plus grande. Et après, pourquoi pas en parler à des personnes qui peuvent agir pour la cause, en fait.
Mmh. Non, mais je voulais dire d'un point de vue moral, quel type de psychologie faut avoir, enfin, de qualité humaine, je veux dire. Par exemple, on veut monter une association. C'est faut être sociable, vous voyez, c'est
ah bah,
ça que
faut
je voulais
être sociable.
Dire. Faut être sociable forcément. Puis d'autres qualités humaines qui sont nécessaires.
Le savoir-vivre.
Alors c'est quoi le savoir-vivre? Oui, Laurie Bell.
Bah savoir s'aider entre tout le monde, savoir écouter les autres personnes, celles qui ont des difficultés dans plusieurs choses.
Mmh.
Et enfin plusieurs choses comme ça quoi.
Alors ça s'appelle comment ça?
Savoir vivre ensemble. Vivre en communauté.
Savoir s'écouter, ne pas se moquer.
La solidarité dont parlait Laurie Bell, voilà, savoir s'aider les uns les autres, on appelle ça de la solidarité. C'est ce que tu disais, ne pas se moquer les uns des autres. Oui, pardon, dans le micro, Elia.
Se respecter.
Apprendre à vivre en communauté.
Savoir s'interroger.
C'est-à-dire?
Savoir aussi, quand par exemple des personnes nous disent des choses, par exemple sur une autre personne, faut aussi savoir aussi s'interroger si vraiment cette personne dit la vérité ou pas, parce que ça peut être faux. Et voilà.
Douter en fait, se permettre de douter, de ne pas croire tout prendre pour argent comptant.
Exactement,
d'accord.
Parce que savoir écouter, c'est pas non plus tout le temps écouter, enfin, entre guillemets, parce qu'on doit aussi. Se renseigner.
C'est intéressant ça, savoir s'interroger. Qu'est-ce que vous en pensez autour de cette table?
Déjà, je pense que déjà ça fera moins de problèmes, entre guillemets. Parce que, par exemple, juger sur une personne, dire des choses, ça peut être faux. Et la personne qui aura dit des choses fausses à une personne, et cette personne-là pourra dire à tout le monde. Les rumeurs. Donc ça peut être très loin, donc voilà.
Savoir se soucier des autres.
C'est bien de dire qu'il faut savoir s'interroger parce qu'il y a tellement de sujets tabous et tellement de rumeurs, tellement de choses qu'en fait ça crée des problèmes, il n'y en a pas.
Il faudrait savoir parler aux personnes parce que quand je vois tous les vols qu'il y a, au lieu de demander voler pour seulement une simple chose, il suffit peut-être juste de demander à quelqu'un, même s'il refuse au moins. Enfin, on peut. La franchise, voilà. Ou des choses comme ça. Même pour, par exemple, pour les attentats ou les choses comme ça, il suffit juste de dire les choses au lieu de dramatiser les choses et de finir en guerre, quoi.
J'aimerais changer le harcèlement. Parce que des fois, ça va jusqu'au suicide, jusqu'à la dépression, des trucs du genre. Ça va trop loin.
Savoir s'exprimer sur les choses qui vont pas, donc avec des personnes de confiance. Donc les médecins, voilà.
Merci à Camille.
De rien.
Voilà, merci donc également à toutes les élèves de la 3e enseignement agricole de la maison familiale et rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois. En ce mardi 10 avril, nous avons, dans le cadre du projet Parole de Jeunes organisé par Famille Rurale, parlé de l'engagement, des terrains d'engagement possibles, des valeurs humaines nécessaires aussi pour s'engager. Voilà, elles sont nombreuses, vous l'avez vu, les filles en ont témoigné. Et nous avons également évoqué le secours à la personne avec le diplôme de secours PSC1. Comme nous le disait Camille tout à l'heure, tous les jeunes qui souhaiteraient s'engager en tant que sapeurs-pompiers n'ont qu'une seule chose à faire, aller à la caserne la plus proche de chez eux, demander le responsable qui leur donnera tous les renseignements nécessaires. Merci à vous les filles.
Merci.
De rien.
C'était enrichissant parce qu'on a appris à connaître un peu ce que les autres y soutenaient et des choses comme ça.
Moi j'ai bien aimé sur la radio là parce que
Enfin, je vois qu'il y en a, bah, on n'a pas tous les mêmes idées, mais bien souvent on se rejoint, quoi.
J'ai appris beaucoup de choses durant cette journée. Et j'ai cru que passer à la radio, ça allait être stressant, mais en fait, quand on y est, pas du tout.
Parole des jeunes, Radio Campus. Parole des jeunes.
Parole de jeunes sur Radio Campus 88.3.